Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce bel exemple de foi de l'officier du roi dans l'Évangile aujourd'hui nous donne l'occasion de considérer ce don inestimable qu'est la foi. Nous allons voir sa définition, son objet, son motif et ses qualités. D'abord, la définition de la foi. La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités révélées par Dieu et enseignées par l'Église. Donc, c'est une vertu, c'est-à-dire une qualité stable de l'âme pour bien agir. En l'occurrence, il s'agit d'une vertu qui rend l'intelligence docile à l'égard de la vérité. C'est une condition requise pour voir clair dans cette vie et pour ne pas être le jouet de l'erreur. C'est une vertu surnaturelle, c'est-à-dire un don gratuit au-dessus de nos forces. Nous n'avons pas mérité la grâce de la foi. C'est Jésus qui nous a mérité la foi par sa passion et par sa croix. Mais si nous n'avons pas mérité la foi, nous pouvons et nous devons nous en rendre dignes, la conserver par une vie chrétienne sérieuse, par la pureté de nos mœurs, par la réception fréquente des sacrements et par l'instruction religieuse. Car on peut perdre ce don de la foi. La foi se perd par la négligence à remplir nos devoirs, par les mœurs légères et puis par les mauvaises fréquentations. Et soit dit en passant que les films et la mauvaise musique comptent comme des mauvaises fréquentations. Il y a quelques années, donc, un jeune homme issu des écoles de la tradition, qui a fait l'école primaire, au collège, puis le lycée dans la tradition. Ce n'était pas un mauvais garçon. Il pratiquait normalement, il allait à la messe, il se confessait. Mais c'était un peu vers la fin du lycée, il commençait à devenir un peu mondain. Il écoutait de la mauvaise musique. Il regardait des films derrière le dos de ses parents, et puis il amenait même, contre le règlement, des films et de la musique à l'école. On l'avertissait, comme les prêtres lui disaient, « Attention, c'est dangereux pour votre âme de continuer sur ce chemin. Vous risquez même de perdre votre âme. » Mais il pensait qu'on exagérait. Puis il est parti pour faire ses études. Il se liait avec des camarades qui n'avaient pas la foi. Le week-end, le vendredi, samedi soir, il faisait la fête. Au début, il faisait quand même l'effort de se traîner à la messe le dimanche matin. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant, il a perdu la foi. Il ne veut même plus en parler. Je ne vous donne évidemment pas le nom de ce garçon, mais la plupart d'entre vous, je pense, pourraient lui donner un nom d'après vos propres expériences parmi vos connaissances. On assiste chaque année, impuissant et navré, au triste spectacle des jeunes issus de nos milieux qui perdent la foi parce qu'ils n'ont pas compris que la mondanité et la négligence dans la vie spirituelle font perdre la foi. Alors, pour continuer la définition, c'est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons. Par laquelle nous croyons. Croire n'est pas voir. Par la foi, notre intelligence donne son assentiment à une vérité sans en avoir l'évidence. Personne ne peut prouver avec des raisonnements des mystères de la foi. On ne peut pas prouver avec un raisonnement, par exemple, qu'il y a trois personnes en Dieu. Cependant, le fait d'y croire nous aide à pénétrer dans les mystères de notre foi et à avoir une certaine intelligence de ces mystères, une intelligence que n'ont pas les incroyants qui ne voient ces mystères que de l'extérieur. Saint Augustin appelle ça la fides querens intellectum, c'est-à-dire une foi qui cherche à comprendre, non pas pour croire, parce qu'il y croit déjà, mais pour goûter ce qu'on croit déjà. Et c'est intéressant de voir dans l'Évangile aujourd'hui l'ordre des faits. L'officier du roi crut à la parole de Jésus, et puis c'est ensuite qui reconnaît que son fils est guéri. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire, justement? Quel est l'objet de la foi? C'est la prochaine chose. L'objet de la foi. Alors, il faut croire toutes les vérités révélées par Dieu et qui sont enseignées par la Sainte Église. Dieu a daigné venir sur la terre pour révéler aux hommes des mystères les plus sublimes, comme la Sainte Trinité, l'Eucharistie, le mystère même de sa venue sur terre, c'est-à-dire son incarnation, le mystère du Dieu fait homme. Mais pour donner un guide sûr pour nous enseigner ces vérités, il a fondé l'Église catholique, qui est la dépositaire, la gardienne et l'interprète infaillible de toute la révélation divine contenue dans les saintes écritures et la tradition. C'est pour ça qu'on dit il faut croire tout ce que Dieu a révélé et ce qui nous enseigne par sa Sainte Église. Mais ici, une question peut se poser. Qui peut connaître toutes les vérités révélées? Est-ce que tous les fidèles sont obligés de connaître toute la théologie catholique pour avoir la foi, pour y croire toutes? Alors non, il y a quand même un minimum requis. Pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison, lui, il a la foi sans trop le savoir, et s'il meurt, il va au ciel. Mais pour les adultes ou les jeunes, dès qu'on a l'usage de la raison, le minimum absolument nécessaire pour être sauvé, c'est vraiment la condition sine qua non, c'est de croire explicitement, ouvertement, que Dieu existe, qu'il récompense le bien et qu'il punit le mal, qu'il y a trois personnes en Dieu et que Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Donc ça, c'est le minimum absolument nécessaire. Cependant, tout chrétien adulte, avec l'usage de raison, est tenu sous peine de péché grave, sauf en cas d'impossibilité ou d'ignorance invincible, de connaître en plus le symbole des apôtres, c'est la prière « Je crois en Dieu » qu'on dit avant le chapelet, connaître les sacrements qui sont nécessaires pour la vie chrétienne, donc le baptême, l'Eucharistie, la confession, connaître les 10 commandements et le Notre Père. Alors vous avez peut-être reconnu la division classique de tous les catéchismes depuis le catéchisme du Concile de Trente. Ce n'est pas par hasard si on divise le catéchisme comme ça, c'est le nécessaire, ce qu'on est tenu de savoir. Et il est évident que pour obéir à un précepte si grave, on ne doit pas se contenter d'une connaissance superficielle, mais s'efforcer d'approfondir son instruction religieuse toute la vie. Alors vous savez, nous avons recommencé les cours de catéchisme pour les adultes, donc à Biblia, 2 fois par mois, les jeudis. Donc c'est l'occasion. Mais ici, nous pouvons toujours nous poser la question: comment est-ce que la foi nous fait croire toutes les vérités révélées par Dieu s'il peut y avoir quand même quelques doctrines que nous ne connaissons pas. Alors, pour comprendre, il faut examiner quel est le motif de notre foi, c'est-à-dire quelle est la raison pour laquelle nous croyons. Une foi vraie est fondée sur l'autorité infaillible de Dieu qui révèle. Si nous croyons parce que nous pensons avoir compris le mystère ou parce que nous jugeons que cela doit être ainsi ou parce que telle doctrine nous plaît, etc., alors nous n'avons pas la foi. Le motif de la vraie foi, c'est autre chose. La foi nous fait croire uniquement parce que Dieu l'a dit et Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est cela notre raison de croire. Pardon, si cela est notre raison de croire, alors même si nous ne connaissons pas toutes les doctrines dans les détails, nous les croyons toutes implicitement, car nous croyons tout ce que Dieu a dit ou peut nous dire. Par contre, si nous nions un seul dogme de la foi, nous n'avons pas la foi, parce que alors nous introduisons notre propre jugement dans l'affaire. Et c'est pourquoi, et on ne peut pas le répéter trop aujourd'hui, il est absolument faux de dire que les protestants ont la foi, ou de dire que les juifs et les musulmans ont la même foi que nous en un seul Dieu. C'est complètement aberrant d'entendre de telles sottises, même dans la bouche des hommes de l'Église aujourd'hui. Alors, finissons avec les qualités de notre foi. Donc, notre foi doit être d'abord ferme, sans hésitation, comme Abraham, qui était prêt à sacrifier son propre fils parce que Dieu l'avait demandé. Dieu l'a dit, donc il croyait qu'il fallait le faire. Notre foi doit être simple, sans raisonnement, nous gardant de faire des recherches inutiles et téméraires. Soyons simples dans notre foi, comme Saint Louis. Vous vous rappelez, un matin, on est venu chercher Saint Louis pour lui dire, venez vite à l'église, il y a un miracle. Quand le prêtre a élevé l'hostie, on voyait l'enfant Jésus dans l'hostie. Et Saint Louis a répondu, moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Moi, je crois que Jésus est présent dans l'Eucharistie parce qu'il a dit, ça me suffit. Et notre foi doit être aussi entière, englobant tout l'enseignement de l'Église sans accepter un seul article, comme nous avons vu tout à l'heure. Et enfin, notre foi doit être agissante. Nous avons dit que la foi est une vertu, et une vertu est une disposition de l'âme pour agir. C'est tout tendu vers l'agir. Il faut vivre notre foi, vivre en accord avec notre foi et prendre toutes nos décisions professionnelles et familiales en fonction de ce qui protégera le mieux notre foi. Alors, pour conclure, disons juste un petit mot sur la prière, l'acte de foi. Vous avez toutes ces choses résumées dans la prière, l'acte de foi. La définition de la foi, donc ce que c'est, son objet, toutes les vérités révélées, son motif, parce que Dieu est la vérité même, il ne peut pas se tromper ni nous tromper, les qualités de notre foi, on dit, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, etc. C'est une prière que tout chrétien doit savoir par cœur. Et c'est une prière qu'on devrait dire tous les jours en famille. Ça prend 10 ou 15 secondes. Et là, si on fait ça tous les jours, on se rappelle ce que c'est que la foi. Aujourd'hui, dans ce dimanche des missions, on pourrait aussi dire en famille les trois prières qui sont ajoutées à la messe pour la propagation de la foi. Vous trouverez ces trois prières dans vos missels, regardez dans la table des matières. Prions pour les milliards d'âmes dans le monde qui n'ont jamais eu ou pire, ont perdu le don de la foi. Et puis faisons tout ce que nous devons faire pour préserver la foi intacte dans notre âme. Nous demandons cette grâce à Notre-Dame de la foi, à très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.